Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est présentée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en février 2011 et c'est l'épisode numéro 54. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Aujourd'hui, on va vous parler de téléphones mobiles, Nokia, Microsoft, HP, Android, tout ça. On va aussi vous parler de Google et Bing qui se copient l'un sur l'autre, de Intel qui fait un rappel monumental et de plein d'autres choses. Mais avant ça, je me présente, je m'appelle Patrick, je suis avec mon camarade de tous les mois pour un épisode sur deux. Jeff, en direct de la Silicon Valley, qui ne fête pas la Saint-Valentin. Comment vas-tu, Jeff ?
Jeff va très bien. Jeff a beaucoup de chance puisque sa chère et tendre refuse catégoriquement de fêter la Saint-Valentin parce qu'elle dit que c'est une occasion essentiellement commerciale. Et donc, depuis 2 ans, si jamais je me pointe avec un cadeau, je me le prends sur la tronche. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
Donc, vous l'aurez... Saint-Valentin. Vous l'aurez compris, on enregistre le 14 février. Mais je comprends pas les gens qui haïssent à ce point la Saint-Valentin. Enfin, je veux dire, c'est pourquoi ne pas fêter aussi, tu vois, un petit bouquet de fleurs, un petit quelque chose, en plus des autres jours. Je veux dire, c'est pas obligé d'être le seul jour.
Bah écoute, personnellement, de toute façon, quand je vais faire les courses, tous les samedis, je ramène un bouquet de fleurs, déjà. Oh. Et donc, avant-hier, quand j'étais faire les courses, j'ai ramené un bouquet de fleurs où il y avait un petit cœur, mais aujourd'hui, je ne ferai pas mention de la Saint-Valentin, c'est tout.
Donc, en fait, le truc, c'est que pour toi, il faut ramener des fleurs quasiment tous les jours, sauf à la Saint-Valentin. C'est juste le moment où il ne faut pas, quoi.
Exactement.
D'accord, je comprends. La chatroom est là avec nous. Bonjour à tous d'être revenus. C'est vrai qu'on n'avait pas trop fait la diffusion live pendant quelques temps. Et puis là, on revient en direct régulièrement. Donc, les gens commencent à revenir aussi. Et je suis bien content de vous avoir tous. J'espère que vous n'hésiterez pas à nous prévenir quand on dit des bêtises. Vous savez quoi, comme je le disais dans l'introduction, on a un programme qui est quand même assez animé, donc je vous propose qu'on se lance immédiatement dans les news de ces 2 dernières semaines, avec un tout petit bémol quand même, enfin une petite astérisque, j'ai failli dire astérix, que dans l'épisode, le prochain épisode du podcast Upload, qui sort tous les mercredis, on parle assez longuement de toutes les nouvelles sur la téléphonie mobile et les tablettes. Donc on va en parler aujourd'hui, bien sûr, dans le Rendez-vous Tech, parce que ça fait partie de l'actualité tech, avec le Mobile World Congress c'était où déjà ? Quelque part en Espagne ?
Barcelona.
Voilà, Barcelone. Mais on ne va pas rentrer autant dans les détails que dans Upload. Donc, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à aller écouter Upload numéro 50. Donc, Barcelone, j'imagine que tu suis avec grande attention l'actualité qui sort de Barcelone et les pré-annonces qui ont été faites la semaine dernière. Ça t'a rendu totalement fou d'envie et de joie ?
Non,
mais
c'est intéressant. Ce qui est super rigolo, j'ai un copain donc, qui est à Barcelone, là, Robin Waters, et donc il demande à la presse de ne pas utiliser le Wi-Fi pour les laisser aux annonceurs et les force à utiliser des câbles Ethernet. Ce que je trouve assez rigolo quand même pour un Mobile Congress.
Pour un salon sur la mobilité, effectivement.
Ouais. Bah, on en parlera de toute façon un peu plus tard. La grosse news, c'était évidemment autour de Nokia.
Lançons-nous.
On y va. Donc, aux États-Unis, la blague, c'est Nokia who? Parce que bon, ici, de toute façon, la plupart des téléphones Nokia ne sont pas couverts par les les carriers. Ça y est, je commence déjà à oublier le français. Par les opérateurs, et donc tu vas devoir payer 690 $, 790 $ pour un téléphone Nokia qui n'est pas si intéressant qu'un iPhone, et donc personne n'en achète. Et donc cette grosse news qui est tombée la semaine dernière, vendredi, par le nouveau CEO de Nokia qui vient de chez Microsoft, c'est que Microsoft et Nokia ont cet énorme partenariat où Nokia prend stratégiquement la direction de Windows 7 Mobile comme système d'opération de base, et ça c'est énorme.
Mais attends, parce que on en a discuté un petit peu, on en a entendu parler, mais pour Nokia prend pour toi la direction de Windows Phone 7?
Je pense qu'ils vont avoir aussi.
C'est quand même pas à ce point-là. Je veux dire, ils vont utiliser Windows Phone 7 dans leur smartphone principalement, mais.
Bah, si tu regardes, je ne sais pas si tu as lu la missive qu'a envoyée le nouveau CEO donc de Nokia, Stefan Elop, à ses troupes, où il parlait de sa burning platform, donc
oui, tout à fait,
la
oui.
plateforme qui brûle, donc une plateforme pétrolière qui brûle. En gros, ils sont en train de se faire attaquer sur les trois gros segments de leur marché.
Pour expliquer la situation jusqu'à maintenant chez Nokia, Nokia était en énorme perte de vitesse, on s'en doute, et leur système existant, à savoir Symbian et un potentiel Migo dans le futur développé avec Intel, n'était pas vraiment une porte de sortie viable pour eux. Ils ont évoqué vaguement Android pour dire que ces termes exacts auxquels ont répondu certaines personnes de chez Google, on en parlera plus tard, étaient... utiliser Android, c'est comme se pisser dans le pantalon pour se tenir chaud. Ce qui est quand même assez, assez
violent. Ce qui est assez imagé.
Ouais.
Faut le dire.
Donc effectivement, ils n'avaient pas beaucoup d'avenir dans leur situation actuelle. Ils se sont tournés vers Windows Phone 7 et ils disaient effectivement, en ce moment, on est sur une plateforme qui brûle, comme tu le disais. Mm-hmm. Et je te laisse continuer, ouais, pardon.
Et donc, et la plateforme qui brûle, c'était l'image d'une plateforme pétrolière qui est en train de brûler, où le mec qui est dessus a deux choix, soit brûler avec la plateforme, soit sauter dans la mer glacée qui est 30 mètres en dessous avec une chance de survivre. Et en gros, c'est l'image que donnait le Gus pour dire, bah voilà, soit on crève en restant sur notre propre système, soit on plonge dans l'inconnu. Et c'est pour ça que je ne sais pas en fait quel est le niveau où ils vont supporter Windows 7 Mobile. Est-ce que c'est comme plateforme unique? Est-ce que c'est comme plateforme stratégique, etc. Mais en tout cas, quand tu regardes en fait la guerre des OS sur les téléphones mobiles, je pense que Migo, de toute façon, c'est un petit peu comme Bada, le système de Samsung. Il n'y a pas énormément d'avenir. Clairement, Intel, sur le coup, s'est fait planter puisqu'ils n'étaient pas au courant que Nokia allait faire l'annonce. Et partir avec Windows 7, qui a, lui, un gros problème en fait, d'adoption par les gens qui développent des téléphones portables, ça a du sens. Est-ce que c'est deux pierres qui s'attachent l'une à l'autre pour couler plus rapidement, ou est-ce que c'est une chance de survie face à Apple et face à Android? Je pense que c'est une vraie question, mais ça me paraît pas débile du tout.
Oui, moi je. Alors c'est Vic Kundotra de chez Android qui disait deux dindons ne font pas un aigle, en parlant de Nokia et Microsoft. Moi, je trouve que c'est... Bon, évidemment, il va dire ça puisque Nokia n'est pas allé vers Android, mais plutôt vers Microsoft. Et mon analyse de la chose avec laquelle Jérôme et Cédric d'Upload n'étaient pas... Enfin, ils ne souscrivaient pas totalement. Moi, je disais, en allant vers Windows Phone 7, c'est presque un moyen de se différencier parce que tout le monde est sur Android. Il y en a des dizaines de téléphones Android. Alors que Windows Phone 7, qui a connu un démarrage un petit peu plus lent, mais qui est quand même un excellent système d'exploitation pour téléphone, permettra à Nokia de se différencier un peu. Et comme ils savent faire du matériel, ça crée une combinaison gagnante. Est-ce que je fantasme ou c'est possible, ou je rosie trop la chose ou...
Non, non, je pense que tu as... Enfin, t'as deux façons de voir les choses. Un, c'est... L'acteur majeur du monde du téléphone portable, Nokia, qui est en perte de vitesse totale sur la partie hard, sur la partie soft et dans les différents segments de marché. Donc il faut qu'il fasse quelque chose d'assez...
Ah bah ça c'est clair de toute façon. Hein, ils sont...
D'assez bold. Hein, Et aller avec Microsoft qui a besoin en fait de se déployer beaucoup plus rapidement dans ce marché, c'est un peu une alliance qui a du sens, sachant que Microsoft a eu des ambitions de rachat de Nokia il y a des années et ça leur coûtait en fait trop cher. Et en gros, avec cet ex-Microsoft à la tête de Nokia, avec un ex-Microsoft à la tête de Nokia aux États-Unis, en gros, c'est une façon un petit peu limitée pour Microsoft de prendre une partie importante du business de Nokia sans dépenser un. Bah, c'est pas vrai, c'est pas sans dépenser un dollar, puisqu'il a été
Oui.
reporté que
Ils ont
Microsoft
payé
allait
Nokia
payer
très cher,
des
oui.
centaines de millions de dollars, mais dans l'absolu, des centaines de millions, c'est que dalle pour Microsoft.
Ouais. C'est un petit peu comme cette histoire où Ballmer a dansé autour de Yahoo pendant des semaines et des mois pour finalement récupérer le business de la recherche de Yahoo, qui était un petit peu ce qu'ils voulaient, et donc ils n'ont pas eu besoin de racheter Yahoo et ils ont quand même obtenu l'essentiel de ce dont ils avaient besoin, quoi.
Ouais,
Là, c'est peut-être un petit
exactement.
peu la même formule.
Et donc, je
Ok.
pense que ton analyse, j'y souscris, c'est-à-dire que
Ah,
c'est
ça
rigolo
fait
au sens
plaisir.
où 2 jours avant l'annonce, il y a eu un espèce de débat sur Twitter autour de qu'est-ce que devrait faire Nokia. Et je disais que dans l'absolu, la seule véritable porte de sortie ou d'entrée, en fonction de comment tu regardes les choses, c'était effectivement Windows 7 Mobile. Et le fait qu'ils aient pris cette option. Me semble avoir du sens. Comme tu le disais, il y a une grosse différenciation potentielle puisque tout le monde va sur Android et donc eux, en s'alliant stratégiquement avec Microsoft et de fait en bénéficiant a priori de la force de développement de Redmond, ça peut leur permettre en fait de faire un espèce de clean-up chez eux, faire un nettoyage sur la
Ouais.
partie hard et sur la partie soft puisque bon. Quand tu regardes je m'en rappelle avoir vu un N90 ou 92 3-4 ans, il y a 3-4 ans, qui nous était donné en fait par des gens de Nokia, et je l'ai utilisé 5 minutes et je l'aurais rendu parce que je leur ai dit c'est une merde, j'en veux pas quoi. Et pourtant ils me le donnaient. C'était même pas, c'est la pire insulte, c'est tu donnes un téléphone à quelqu'un et te le rends en disant mais c'est de la dope ton truc.
Ouais. Oui, donc effectivement, là, ils ont... Bon, je suis content en tout cas que tu partages mon avis. Ça veut dire que je ne suis pas totalement, totalement débile. C'est gentil. J'ai cru t'entendre inspirer pour me dire, non, non, mais ça ne veut pas dire ça. En fait, il est possible que tu sois débile. Non, c'est pas ça. Ok.
Non, non, ça veut dire qu'on est aussi taré l'un que l'autre, c'est
Ah,
tout.
ok, bon, très bien, c'est l'autre solution. Les autres qui sont a priori pas totalement tarés, c'est HP qui ont également dévoilé la semaine dernière leurs nouveaux produits qui sont basés sur évidemment le Palm Pre et le système webOS qu'ils ont racheté il y a, oh, ça doit faire un an, un petit peu moins d'un an peut-être. Et à ce moment-là, tout le monde s'est rendu compte qu'en fait, c'était une super bonne idée. Et HP y croit énormément puisqu'ils ont présenté trois produits importants. Basé sur ce système d'exploitation pour mobile, le Pre 3, qui est la troisième version du téléphone mobile, un téléphone assez classique, hein, avec un clavier coulissant et cet excellent système webOS. Le Touchpad, qui est une tablette, là encore relativement classique, qui fait un petit peu penser à l'iPad, mais avec des choses en plus. Et le HP Veer, qui est Veer, qui est un téléphone tout petit, minuscule, un petit peu comme le HP Pixie, le Palm Pixie, qui est, en fait, il couvre un petit peu tout le cadran, les tout petits trucs, les téléphones smartphones bien foutus et les tablettes, avec en plus des interactions hyper intéressantes. Ils utilisent bien sûr. Sur les deux plus gros, le système de la Touchstone, je crois, qui est le chargement sans fil. Vous posez le truc sur la plaque et ça chauffe. Ça chauffe. Oui, pour cuire votre téléphone,
Ça chauffe, oui.
ça charge directement. Mais vous pouvez aussi échanger des fichiers, par exemple, entre le téléphone et la tablette. Si vous êtes en train de lire une page web sur votre téléphone, vous tapez le téléphone contre la tablette, enfin, pas trop fort, hein, là où il faut vous toucher. Et ça transmet l'adresse de l'un à l'autre, des photos pareilles, etc., etc. C'est plutôt enthousiasmant cette nouvelle machine, enfin cet ensemble de machines.
Je pense que bah, ça résume un petit peu l'approche de WebOS. Ça a été depuis très longtemps un bout de soft qui était vraiment révolutionnaire. Le problème qu'ils ont toujours eu, c'est la distribution, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais réussi à atteindre un nombre d'opérateurs suffisant et un déploiement suffisant pour sauver en fait Palm.
Ouais.
Et c'est un peu toujours la même question que j'ai, c'est-à-dire que HP, bon, c'est un énorme acteur, clairement, mais
Bah
est-ce
oui, quand même,
qu'ils ont aujourd'hui,
enfin,
est-ce qu'ils ont aujourd'hui.
c'est le plus gros constructeur et de PC, si je ne m'abuse.
Ils sont plus gros, oui, ils sont plus gros que Dell maintenant, oui. Donc c'est un énorme acteur, mais c'est pas forcément un énorme acteur dans le monde du mobile. Donc la question c'est, est-ce que ils vont réussir grâce à ces nouveaux produits à rentrer dans un marché qui est déjà difficile, hein, puisque il y a énormément d'acteurs au niveau des OS. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde se dit, bah, il y a iOS, il y a Android,
Android.
est-ce qu'il y a une place pour ne serait-ce qu'un troisième OS? Et la question, c'est entre WebOS, entre Windows Mobile 7, dont on vient de parler, et puis des trucs un peu plus bizarres, genre Bada, Migo et tout, qui a une chance? Et la plupart des gens, en fait, disent, bah, c'est Microsoft, parce que Microsoft, en fait, a l'argent, a la
Tu veux
puissance,
dire pour un
c'est du soft
troisième
pour un troisième, oui,
ouais.
pour un troisième acteur sur le marché. Et donc, où est-ce que ça laisse WebOS? Bah, ça les laisse un peu sur le strapontin. Donc, soit ils trouvent un marché, un sous-marché, genre le marché de la tablette, avec des fonctionnalités sympas, puisque le marché de la tablette aujourd'hui est en train d'exploser et ils arrivent vraiment à pénétrer par le haut du marché, ce qui serait peut-être une approche intéressante. Soit ça va pas être évident, puisque aujourd'hui, bah, on voit un peu comme on l'a vu sur le téléphone, l'iPad qui marche de folie, les tablettes sur Android qui marchent bien. Et est-ce que c'est bien, mais trop tard, quoi.
Ouais, bah, c'est clair que, enfin, en tout cas, eux, HP, ils y croient. Ils ont même annoncé qu'ils allaient avoir le WebOS sur les ordinateurs. Ça sera sans doute un logiciel qui fera des choses sur ordinateur, mais il sera peut-être possible d'avoir des ordinateurs super simples avec WebOS. Mais c'est vrai que c'est quand même le quatrième, du coup, parce que iOS d'Apple, Android de Google, Windows Phone 7 de Microsoft, déjà que Windows Phone ne démarre pas à fond la caisse, bon, HP, ils vont avoir quand même du boulot. Mais
Oui, et puis t'as Android, Chrome OS, tout ça. Enfin, on parlait de ça, je crois, la dernière fois enfin, où j'étais sur le rendez-vous tech, où on parlait de cette notion de migration ou d'homogénéisation entre Chrome OS et Android, que personnellement j'avais du mal à voir quand même,
Ouais.
même si, in fine, Chrome OS, bah, c'est ni plus ni moins qu'un browser, hein, in fine. Donc ça veut dire que WebOS se positionne sur exactement le même segment d'un outil qui va aller entre le système pour les téléphones mobiles et qui va même aller sur les tablettes et les ordinateurs. Donc
Ouais.
c'est vraiment Android, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et d'autant plus qu'on a eu sur certains aspects sur lesquels HP innove, on a eu des rumeurs, mais qui bon sont vraiment des rumeurs, selon lesquelles Apple préparerait un iPhone mini ou iPhone nano qui ferait genre deux tiers ou la moitié de la taille de l'iPhone actuel, que l'iPad pourrait voir une version 2 arriver dans les mois à venir et puis une version 2.5 à l'automne carrément pour se rapprocher un cycle annuel plus proche des fêtes. Donc ça ferait encore une évolution. On a entendu parler d'une gratuité de MobileMe qui permettrait de mettre toutes les données utilisées par les utilisateurs Apple dans le cloud et de permettre des fonctionnalités qu'on commence à voir apparaître sur d'autres concurrents. Donc effectivement, ça commence à chauffer. Il faut avouer quand même qu'avec tout ce qu'on a vu, et on va parler d'Android 3.0 tout de suite, entre toutes les possibilités du Motorola Zoom dont on parlait la dernière fois, de la tablette HP, du Playbook, l'iPad commence à prendre un tout petit coup de vieux, non? C'est ce qu'on disait encore une fois dans Upload. Tu ressens la même chose, toi?
Oui, je pense qu'ils ont été les pionniers sur l'approche en fait qui a fait décoller le marché de la tablette chez les grands
Ça, c'est sûr.
consommateurs, enfin dans la grande consommation. Et donc bah, ça leur a donné une pénétration bah, énorme. Maintenant, Les différents acteurs ont réagi très très rapidement, je veux même dire plus rapidement que ce que je pensais, c'est-à-dire que le Samsung, le Galaxy Tab est beaucoup mieux en fait que ce à quoi je
C'est vrai?
m'attendais. Et donc il y a des compétiteurs qui sont là et qui sont crédibles. La question ensuite, c'est une question de quels vont être les discounts que vont faire les opérateurs en fonction des différentes machines pour que tu puisses acheter ces outils, parce que bon, c'est quand même pas donné. Hein, je veux dire, mon iPad, quand je l'avais acheté, ça m'a coûté quand même près de 2 000 $ puisque j'ai pris la version
Ah, mais t'en as pris
64
deux,
Go.
2000 dollars.
Non, non, j'avais pris. Non, c'est pas 2 000 $.
Non, c'est 1000 dollars.
C'était 1 000 $, oui, c'était 1 000
Ouais,
$.
c'est 1000.
Mais avec les différentes options et les machins et trucs,
Ouais.
ça approchait les 1 000 $. Bon, le Zoom, je crois qu'il a été annoncé un peu
800 à peu
plus.
près. Il a pas été
Ouais.
annoncé, le prix n'a pas été annoncé, mais les rumeurs font état de 800 dollars.
800 plus. Mais quand tu vas rajouter la caisse, le truc de
Ouais.
garantie étendue, etc., t'arrives à 1 000 $. Donc, c'est quand même des prix qui sont assez.
Ah
Qui
bah
sont
le
sérieux.
truc effectivement qu'on peut remarquer, c'est que la plupart des tablettes semblent annoncer, enfin l'iPad était à peu près à 500 et les autres, les nouvelles sont à peu près à 800, quelque chose comme ça. Les prix théoriques, enfin les rumeurs. Eric sur la chatroom dit 1200 chez Best Buy pour le zoom de Motorola. C'est pas vrai, c'est complètement, c'était un tarif théorique, enfin même pas un tarif théorique, c'était un placeholder. Un truc pour faire. Enfin bref, c'est pas ça. C'est plutôt 800 dollars, ce qui est déjà quand même relativement cher pour un objet qui est, comme on le disait, le troisième de objet informatique après l'ordinateur et le téléphone, quoi. Donc.
Oui, et puis c'est toujours aussi quelque chose. Enfin, après avoir maintenant utilisé un iPad depuis un bout de temps et avoir du recul sur les conditions dans lesquelles tu l'as utilisé, tu te rends compte que c'est un super produit, mais tu l'utilises pas énormément parce qu'en fait c'est vraiment un outil de consommation. De contenu, que ce soit les news, que ce soit la vidéo, que ce soit les livres, etc., livres électroniques. Et c'est juste pas ce que je fais beaucoup moi. Et
C'est
donc
vrai,
mon
moi je
iPad,
m'en
je
sers
l'utilise
tout le
pas
temps hein,
énormément.
quand même. Moi je m'en sers tout le temps, mais.
Depuis que j'ai le MacBook Air, l'iPad, il a pas beaucoup
Ah ouais,
d'utilisation,
d'accord.
quoi.
Intéressant.
Par contre, pour ma fille, qui fait quasiment que de la consommation de vidéos YouTube, machin, etc., elle est contente parce que c'est elle
Ouais.
qui l'a récupéré, quoi.
Bah, à vrai dire, peut-être que les nouvelles tablettes Android te feront changer d'avis, puisque il y a une dizaine de jours a été présentée la version tablette d'Android, c'est-à-dire Honeycomb, la version 3.0, qui pour le coup est vraiment, vraiment enthousiasmante. On a vraiment l'impression que c'est un mélange entre un système pour tablette et un vrai ordinateur, c'est-à-dire qu'on a plusieurs applications qui tournent en même temps, qu'on peut voir en même temps, on peut passer de l'une à l'autre facilement. Tu vois, on a l'impression que c'est un petit peu plus que simplement de la consommation, et c'est une tendance qu'on sent se détacher un petit peu partout. Et pour moi, ça m'a, enfin, en tout cas, les constructeurs et les développeurs ont réagi beaucoup, beaucoup plus rapidement que ils ne l'ont fait pour les téléphones mobiles. Et les alternatives sont vraiment crédibles et meilleures, peut-être même meilleures que l'iPad. Donc, enfin, Honeycomb, en tout cas, je ne sais pas si tu as vu la vidéo de présentation qu'on avait déjà vue avant, plus ou moins avec le Zoom, mais.
Oui, c'est vachement sympa. Il y a beaucoup de possibilités. La grosse question, c'est est-ce que tu rentres pas dans le complexe, dans le difficile à utiliser, dans
Évidemment.
comment je gère mes applis, mes machins, mes trucs? Parce que c'est ça la force d'Apple, c'est toujours d'introduire des choses qui sont des révolutions potentielles, tu vois, une version à la fois. Et je pense que cette limitation artificielle, parce que bon, ils savent quand même ils savent faire du fenêtrage, hein, qu'ils ont aujourd'hui sur l'iPad, c'est pour éviter que les gens, en fait, s'y paument. Et
Oui, bien sûr, oui.
on va voir avec l'iPad 2. Comment ils vont réagir. Déjà, on s'attend à une bien meilleure définition au niveau de l'écran. On
Non,
s'attend
ça a pas
à quelque chose de.
été, ça a été un petit peu contredit et redit et recontredit, ça.
Bah,
La
ok, bah
définition.
je m'y attends.
D'accord,
Comme ça, je vais
ok.
ramener ça à moi, je m'y attends.
Ok.
On va voir ce que ça donne avec la caméra. Bon, ils vont pas s'asseoir sur. Ils vont pas attendre la compétition et s'asseoir sur leur laurier, c'est pas leur style.
C'est sûr, oui. Oui, et puis ça devrait être annoncé dans pas trop trop longtemps, à mon avis, ils vont laisser passer le Mobile World Congress. Et puis, fin février, on va sans doute avoir une annonce pour l'iPad 2. Enfin, ça ne serait pas surprenant. Mmh. Effectivement. Bon, on va laisser donc de côté tout cet aspect mobile. Comme je vous le disais, allez écouter l'upload numéro 50 si vous voulez encore plus de nouvelles sur ce sujet et ses constructeurs et ses développeurs.
Et on je va passer... juste rajouter un commentaire si je peux, excuse-moi. Sur WebOS, en fait, c'est Upload qui me fait penser à ça. C'est le gros problème que je voulais mentionner, c'est que tant qu'il n'y a pas un soutien massif du marché des développeurs, de toute façon, t'as beau lancer des produits... en 2011, ce que tout le monde attend, c'est avoir des applications phares sur la plateforme. Et si tu les as pas, t'as vraiment un gros problème. Et c'est aujourd'hui la grosse différence, ne serait-ce que entre Apple et Android. Même si on a des tonnes d'applications aujourd'hui disponibles sur Android, tout est fait, développé et réalisé en premier sur l'iPhone aujourd'hui. Et c'est ça qui leur donne ce pouvoir, en fait, parce que non seulement tu vas regarder le téléphone ou la plateforme, tu vas regarder aussi les applications. Ouais. Et aujourd'hui, d'un point de vue développeur, bon, j'ai plein de mes boîtes qui développent sur ces plateformes mobiles, hein. La seule chose dont on parle, c'est... d'un côté l'iPhone, de l'autre côté Android. Si quelqu'un, tu vois, il n'y a guère que Loïc qui a vraiment un produit très très grand public qui va développer sur le BlackBerry, qui va développer sur Windows 7, etc. Mm. Et le WebOS, c'est même pas mentionné, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et si Loïc se pointe et me dit je veux développer sur WebOS, je lui colle une tarte parce que ça n'a pas de sens.
Ouais, bon, tu viens de refroidir mon enthousiasme pour le WebOS là d'un coup. Bon, en tout cas, ce qui ne manque pas d'enthousiasme, c'est Google et Microsoft, en tout cas la filière recherche de Microsoft, c'est-à-dire Bing, qui se sont collés un combat toute la semaine dernière, et un petit peu avant même, c'était complètement à la fois ridicule et amusant et intéressant et intriguant, enfin...
C'était
surréaliste, cette histoire. Alors, j'essaye de vous résumer, c'est une histoire un petit peu compliquée. Donc, Jeff, surtout si je dis une bêtise, n'hésite pas à me reprendre.
Hein. Pas de problème.
Alors, ce qui s'est passé, donc vous le savez, Google, moteur de recherche pour rechercher les choses sur Internet. Bing, le moteur de recherche de Microsoft, ils se font concurrence depuis des mois. Les chercheurs de chez Google s'aperçoivent par un moyen dont je ne me souviens plus exactement les détails que quand ils utilisent des termes, c'était un terme totalement impossible à taper par hasard, qu'ils rentrent par erreur dans le moteur de recherche de Google, ils obtenaient une correction orthographique qui correspondait au terme qu'ils recherchaient vraiment. C'était un terme médical, j'ai pas les détails ici. Ils se sont aperçus que chez Bing, le même terme mal orthographié donnait la même correction orthographique. Et ils se sont dit, mais c'est quand même un petit peu bizarre, parce que c'est un truc hyper spécifique qu'il est difficile de reconnaître comme ça. Donc pourquoi est-ce que Bing le reconnaît de la même manière que nous, chez Google, on le reconnaît alors que c'est hyper, hyper spécifique? C'était il y a quelques mois. Ils se sont dit, nous allons lancer une enquête de haute volée. Et ils se sont mis à créer des termes bidons, des résultats pour des termes bidons dans Google. C'est-à-dire que ils font par exemple un terme au hasard, hein, disons HB221264C, et avec ce terme, ils injectent dans les résultats de Google qu'il faut afficher la page de Jeff. Avec HD2264C, je crois que c'est ça. Et donc, quand ils font leur recherche sur Google avec ce terme, ça arrive sur la page de Jeff. Ok, pas de problème, ils disent à leurs ingénieurs, bon, alors, vous allez chez vous faire cette même recherche sur Google de temps en temps pendant quelques semaines. Et, effectivement, au bout de quelques temps, ils se rendent compte que le terme en question donne le même résultat, c'est-à-dire la page de Jeff sur Bing également. Et là, on vous a trouvé. Et ils font une grande annonce et ils disent, voilà, c'est la preuve évidente que Bing copie sur Google. En gros, ce qu'il disait, c'est voilà, nous on a ce résultat totalement impossible à trouver. Bing a le même résultat, donc ils utilisent nos recherches pour, enfin les résultats de nos recherches pour leurs recherches à eux, ce qui est une copie éhontée. Et en gros, ils ont appelé la maîtresse en disant madame, y a Bing qui copie quoi. Et c'était fait d'une manière, comment dire, enfin c'est vraiment les ingénieurs qui lèvent leur tête de leur ligne de code, et j'ai été programmeur, donc je sais ce que ça veut dire, qui lèvent leur tête et qui font mais c'est pas juste, mais pourquoi. Et alors, enfin, c'est ça devient un petit peu amusant et limite ridicule, parce que Google a quand même copié son modèle économique entier sur des gens qui le faisaient avant, les histoires d'AdWords et de, ah, je me souviens plus de leur nom, l'agence qui avait fait ça. Bref, d'autre part, Google affiche ses résultats publiquement. Donc, si Bing, par hasard, effectivement copiait la chose, bah, les résultats sont publics. Donc, est-ce qu'on peut vraiment penser qu'ils ont le droit de copier ou pas ? Ensuite, Microsoft a dit non, pas du tout, on ne copie pas. On utilise des données de certains utilisateurs pour améliorer les résultats de nos recherches. Il s'est trouvé que finalement, ce qui se passait, c'est qu'avec la barre Bing, vous savez qu'on utilise sur Internet Explorer, ils utilisaient certains résultats. C'est-à-dire que si vous cherchez quelque chose, vous obtenez une recherche, vous cliquez dessus, ça veut dire qu'en tant qu'utilisateur, vous êtes satisfait de cette recherche. Ces données sont envoyées à Bing comme tout un tas d'énormément de plein d'autres données qui sont sans doute plus crédibles à utiliser. Et ils intègrent ça. Donc, ça fait partie de leur recherche. Ils intègrent toutes sortes de paramètres. Pourquoi pas celle-là ? Et ils sont tapés sur la tête. Non, c'est lui qui a dit ça. Non, c'est un tel qui a dit truc. Madame, il copie, etc. Une sorte d'étalage de linge sale en public qui a amusé toute la sphère technophile pendant bien 10 jours. Jeff, toi, en tant que personne qui a vu ça, bon, de l'intérieur de la Silicon Valley, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Alors, deux, trois petites choses. Donc, tu as tout à fait résumé la situation. Les pièges qu'a tendu Google, c'était pas un, c'était pas deux, c'était genre 40 ou 50 termes qui étaient impossibles. C'était des mots qui n'existent pas. Donc, c'était même pas une question de pas bien taper, tu vois, un nom ou un mot, etc. C'était vraiment des suites de caractères.
Le piège n'était pas fait au hasard. Hein. C'était
et donc,
clairement.
Le contexte dans lequel ça s'est passé, c'est quand même assez rigolo. C'était il y avait un panel dans une conférence qui était orchestrée par Danny Sullivan. Donc Danny Sullivan, c'est un peu le journaliste qui est la référence dans la couverture donc du marché des moteurs de recherche, d'accord. Ouais. Il écrit des papiers, il fait des conférences. Donc c'est vraiment le mec qui est le plus pointu sur ce domaine-là. Et donc il y avait sur scène Matt Cutts de Google, c'est le mec qui est en charge de la lutte contre le spam chez Google. Il y avait un Gus de Microsoft, et puis il y avait mon copain Rich Skrenta de chez Bleco,
ouais,
qui est un de mes investissements,
qui est un nouveau moteur de recherche,
qui est en gros en train de se faire une place entre Google et Bing, et donc ils sont en train de discuter du futur du moteur de recherche, du marché, puisque bon, aujourd'hui il y a une grosse levée de bouclier contre Demand Media et les autres boîtes qui produisent du contenu à raison de millions de pages par an et qui polluent Internet, donc c'est ce qu'on appelle les content farms. Ouais. Et donc il parle de ça, et puis le père Matt, en gros, sur scène, dit mais de toute façon, Bing, vous nous copiez. Et puis il balance un screenshot, deux screenshots, trois screenshots qui montrent effectivement le fait que Bing, pour ces mêmes termes, sort exactement les mêmes résultats. Et ils expliquent ensuite, en long, en large et en travers, la façon dont ils ont piégé les ingénieurs de Microsoft depuis plusieurs mois. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une sting operation, c'est on sait qu'ils nous copient, on va essayer de leur mettre le nez dans le caca, quoi. Et c'était assez Ça a évidemment choqué, étonné tout le monde, mais c'est super rigolo, quoi. Quand tu penses qu'une boîte comme Google a déployé des vraies ressources de engineering pour faire ça, les mecs, ils ont été assez fins, quoi. Et j'ai parlé donc avec mon copain Rich, qui me disait, mais c'était complètement irréel d'être sur scène alors qu'ils sortaient ça, quoi. Et je lui ai
Mais est-ce que
essayé
c'est...
de.
Pardon,
Vas-y.
vas-y, vas-y.
Je lui ai dit, mais t'as essayé de voir si on copie. J'ai rentré les résultats chez nous, il n'y a rien qui sort.
D'accord. Mais est-ce que c'est pas une sorte de conséquence un petit peu malheureuse d'autres facteurs que prennent en compte Bing? Je veux dire, oui, ça a l'air terriblement, ils ont l'air horriblement coupables. Mais est-ce que c'est pas juste regarder par le petit bout de la lorgnette alors qu'en fait, ils prennent en compte énormément de résultats? Et en l'occurrence, comme ces résultats-là sont les seuls parce qu'ils ont été designés comme ça, tu vois, ils prennent en compte plein de résultats et qui donnent un facteur de, je sais pas, 10% de crédibilité à certains de ces facteurs-là pour leur recherche en général, pour influencer leur recherche. Et là, c'est le seul résultat et c'est seulement chez Google qu'on peut le trouver. Forcément, ça apparaît comme ça pour ce cas précis, mais en fait, c'est juste un résultat malheureux d'un processus beaucoup plus large qui aurait, tu vois, qui serait pas aussi... pas illégal, mais aussi coupable qu'on le pense en voyant juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si je m'exprime bien, mais...
Oui, et je suis d'accord avec toi. Je ne m'exprimais pas en fait quant à l'aspect légal en fait de ce qu'a fait Microsoft, parce qu'en fait, comme tu l'as
Enfin, même
décrit,
pas légal, mais ouais.
ce qui s'est passé, bah, si tu veux, après, si tu commences à dire que quelqu'un te copie, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une copie de ta propriété intellectuelle? Est-ce que c'est
Ouais.
une copie de ta méthode? Donc c'est quand même assez sérieux. Et là, je pense que c'est vraiment une question de mettre Microsoft comme oui, bah, le nez dans son caca, sachant que le processus qui a amené à ce que ces recherches soient enregistrées, je pense que c'est effectivement ça. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir des systèmes qui vont regarder en fait quelles sont les données que Google va retourner et quelles sont les informations que les utilisateurs vont cliquer pour dire bah voilà, pour telle recherche, c'est cette URL-là qui est la plus appropriée. Et donc, ils doivent avoir un système d'ingestion dans leur propre index qui va prendre en compte ce genre de choses. Et comme ce sont des recherches complètement marginales, puisque bah, ce sont des mots qui n'existent pas, quasiment automatiquement, il est possible que Bing les ait
Ouais.
ingérés sans même se poser de questions. Donc c'est même pas forcément une question de processus de copie, c'est juste la façon dont ils vont essayer d'affiner
Oui.
la qualité de leur recherche. Donc c'est plus en fait la façon dont ça s'est passé qui est un peu ridicule, qui est un peu rigolote, qui est assez, qui est, c'est ça, c'est assez irréel quand tu te dis mais qu'est-ce qui s'est
Ouais.
passé? Parce que quand tu te poses la question de est-ce que c'est une copie, bah pas franchement non, parce que copier ce serait on essaie de pénétrer les ordinateurs de Google et puis on essaie de prendre tous les résultats, alors que là en fait c'est quelque chose d'assez dérivé, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et je voudrais juste répondre aux gens dans la chatroom qui passent enfin, qui citent la phrase de Steve Jobs, qu'il avait d'ailleurs emprunté à. Il l'avait pas emprunté à Picasso? Je sais plus. Bref, les bons artistes copient, les grands artistes pillent ou volent. C'est pas non plus comparable parce que il faut faire une différence entre le fait de copier une idée et le fait de faire du plagiarism, du pillage, comment dire, de la copie mot pour mot, tu vois. Si tu prends ton devoir et que tu rends un devoir à l'université, tu as pris un sujet sur un sujet similaire à celui qui avait été fait deux fois, voilà, de plagiat. Merci beaucoup, la chatroom. Le plagiat, c'est un terme qui couvre quelque chose de précis, qui n'est pas exactement ce à quoi pensaient Steve Jobs ou Picasso quand ils disaient les grands artistes pillent. Tu vois, c'est pas exactement la même chose. Bref, je pense qu'on a
Et
fait le
puis,
tour de. Oui,
objectivement,
pardon.
s'il y avait matière à une poursuite légale, je pense que Google
Oui.
aurait pas eu peur d'aller chercher Microsoft, hein.
Ah bah
Donc
oui, bien
c'est
sûr, oui.
plus, allez, on va s'amuser à leurs dépens, et puis ils ont sorti ça. Et je te dis, c'était assez. Enfin, Danny Sullivan, il a halluciné, quoi. Mais
C'est
qu'est-ce qui
clair,
se passe?
c'est clair.
Mon panel.
Et d'ailleurs, certains ont dit qu'ils ont réussi à détourner la conversation de ces histoires de content farms qui commencent à devenir véritablement problématiques. Et je ne sais pas si tu as vu, Google vient de sortir, pour moi, c'est une nouvelle énorme. Ils viennent de sortir une extension pour Chrome qui permet aux gens de signaler qu'un résultat de recherche est une content farm. Alors c'est encore en bêta, c'est pas vraiment complètement utilisé, mais ça veut dire, il faut savoir que Google a toujours refusé d'intégrer les trucs genre recommandations d'utilisateurs dans leur algorithme sacro-saint qui ne fonctionne qu'avec l'algorithme et sans aucune implication des utilisateurs. Et là, avec cette extension, ce qu'ils font effectivement, c'est de permettre de dire aux gens, cette page, c'est du spam. Et ils vont sans doute intégrer, enfin, on ne sait pas, hein, mais s'ils intègrent effectivement ces données dans leurs résultats de recherche, c'est un changement d'attitude monumental pour Google, et ça veut dire que les content farms sont un problème tellement énorme qu'ils ne réussissent pas à le l'endiguer sans la participation des utilisateurs.
Oui, et tu vois, et c'est, en fait, c'est ça qui est intéressant en tant qu'investisseur dans Bleco, puisque Bleco, le fer de lance de Bleco en tant que moteur de recherche, c'est de dire il n'y a pas de content farms dans notre index, et on fait en gros la police pour nos utilisateurs pour éviter ça.
Je précise, Jeff, il posait la question dans la chatroom tout à l'heure, c'est Bleco avec 2K, B-L-E.
C'est Bleco avec 2K, oui. Voilà. B-L-E, cacao, oui. Et donc, on a forcé en quelque sorte, et je peux te dire qu'on a tapé sur Demand Media, qui est une boîte qui est maintenant sur le marché public. Donc, ils ont fait une IPO il y a une quinzaine de jours maintenant, et ils ont une valeur boursière de 1,7 milliard, ce qui est énorme pour une boîte qui est... C'est de la pollution, quoi. C'est du contenu de merde qui pollue, en fait, Internet.
Pour ceux qui ne savent pas, les content farms, c'est des sociétés qui créent du contenu super bon marché, enfin, de super mauvaise qualité sur des termes qui sont beaucoup recherchés à un moment donné et qui réussissent à obtenir des places intéressantes dans les résultats des moteurs de recherche. Et c'est vraiment... genre du spam sous forme de page web presque qui vient se remonter dans les résultats, quoi.
Et ensuite, ils ont des accords avec des annonceurs verticaux qui vont payer très cher pour ce trafic et ils vont utiliser Google pour monétiser le reste, ce qui est incroyable puisqu'en gros, ils vont jouer. En gros, c'est vraiment, on joue le jeu de Google et on leur soutire du fric sur du contenu qui est vraiment du contenu de bas de gamme. Et oui, le problème, c'est que tu vas trouver du contenu, encore si c'était, tu vois, des recettes de cuisine, etc. Mais t'as du médical, t'as des choses qui sont super, super dangereuses de regarder, de suivre, d'écouter. Pour des dossiers ou des sujets qui sont vraiment très sérieux. Et donc, le fait que, in fine, Google reconnaisse le problème et il fasse quelque chose, alors que ça fait des années que ça existe, ce problème, c'est une petite victoire pour nous, quoi.
Oui, bah, ça commençait, disons que les gens commençaient à en parler très très sérieusement et il commençait à y avoir une tendance chez les technophiles, hein, c'est pas non plus partout dans la rue, mais de dire, mais de toute façon, sur Google, je trouve plus de résultats intéressants, c'est noyé par le spam des content farms, quoi. Donc c'est clair qu'ils doivent faire quelque chose pour inverser la tendance.
Absolument.
Autre nouvelle, là pour le coup vraiment très très sérieuse et qui possiblement est la plus importante de toutes celles qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, c'est la mésaventure qui est arrivée à Intel. La semaine dernière, au dernier épisode, on parlait de leur nouvelle puce et leur nouvelle architecture Sandy Bridge, qui est une série de différents processeurs extrêmement puissants. On ne va pas rentrer dans les détails, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que il y a une petite semaine, Intel s'est...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
J'ai rendu compte qu'il y avait un défaut de conception sur le chipset de cette architecture qui fait que, je résume rapidement, deux des ports SATA, pour les connaisseurs, ne fonctionnent pas. En gros, ils sont obligés de faire un rappel de 95% de tout le matériel qui a été livré, sachant que tout ce matériel était parfois déjà intégré à des ordinateurs qui avaient déjà été vendus. Donc, tous ces nouveaux systèmes qui intégraient l'architecture Sandy Bridge, il y en a eu des millions et peut-être des centaines de millions, ont été rappelés par Intel. Ils vont devoir être soit remplacés, soit modifiés, soit quoi que ce soit. Et ils vont devoir tout remplacer. Ça va leur coûter une somme monumentale. C'est un problème énorme parce que ça repousse la disponibilité de leur nouvelle gamme de processeurs de plusieurs mois. Ça la rapproche de la prochaine gamme de processeurs. Bref, c'est une catastrophe. Enfin, n'allez pas non plus trop pleurer pour Intel. Ils survivront et leur machine reste très très performante. Mais pour énormément de gens, pour une énorme majorité de ces machines, c'est un rappel très important avec des conséquences désastreuses pour Intel, quoi. Tout petit bémol, c'est que comme c'est une partie spécifique de cette architecture qui ne fonctionne pas, ceux qui ne l'utilisent pas peuvent quand même utiliser l'architecture. Et c'est sans doute le cas de pas mal d'ordinateurs portables et notamment des ordinateurs Apple qui risquent d'avoir un refresh bientôt. Mais enfin, quand même, c'est un tremblement de terre chez les concepteurs et les constructeurs de matériel au niveau informatique, non ?
Ouais, non, c'est... C'est assez rare. Bon, ils ont des fois des petits problèmes par-ci par-là, mais jamais à ce niveau-là, quoi. Donc, c'est pas habituel d'Intel que de sortir un truc avec une bourde pareille, quoi.
Et le pire, c'est que, enfin, pour bien comprendre un petit peu la complexité de la chose, c'est un transistor qui peut parfois surchauffer au bout de plusieurs mois. Et quand on sait qu'il y a des milliards et des milliards de transistors sur une machine comme ça, sur un morceau de matériel comme
silicone.
Ça, c'est un transistor qui peut parfois surchauffer et que machin, et ça cause un rappel aussi monumental. Enfin, bref, pas grand-chose d'autre à dire, mais effectivement, c'était une énorme nouvelle de la semaine dernière. Et AMD risque de s'engouffrer dans la brèche pour proposer des solutions aux gens qui ne peuvent plus utiliser cette solution-là. On verra comment ça évolue. Mais si vous planifiez l'achat d'un Sandy Bridge, s'il y a encore quelqu'un pour vous le vendre de manière un peu malhonnête, attendez. Dernière série de news sur le Daily et sur le Huffington Post. Alors d'abord, le Daily qui a été annoncé par News Corp et Murdoch. Donc ce journal sur iPad, exclusivement sur iPad, qui se met à jour donc tous les jours, qui est en vente à 99 centimes par semaine, ce qui est quand même un tarif hyper hyper bas, et qui est désormais disponible aux États-Unis, pas encore en France malheureusement, et qui est censé donc être un petit peu la réponse de News Corp, donc énorme conglomérat de médias, à l'évolution à la crise de la presse, en gros. Une fois par jour, en gros, hein, une fois par jour, mis à jour, téléchargé sur l'iPad, 99 centimes par semaine. Moi, ça me paraît être une formule plutôt très intéressante, surtout que le prix est vraiment bon. Jeff, qu'en penses-tu ? J'imagine que tu l'as essayé, bien sûr.
Pas. Bah non.
Ah bon,
parce
même
qu'en
pas
fait,
par curiosité.
Non, j'ai Si tu veux, ça fait partie des choses que je voulais faire et que j'ai pas eu le temps.
D'accord.
Et donc, j'ai suivi un petit peu. Bah, c'est lié au fait que bah, mon iPad, je l'utilise pas tant que ça. Et,
ah oui, d'accord.
Et ce matin, je me suis dit, ah, bah tiens, on va parler du daily. Il faudrait peut-être que je download et j'ai pas mon iPad sur moi. Et donc, il est resté à la maison. Donc, il y a beaucoup, en fait, de solutions aujourd'hui sur l'iPad, sur les plateformes tablettes, pour essayer d'offrir des nouveaux outils pour la consommation d'informations. Moi, aujourd'hui, j'utilise beaucoup l'application CNN. Donc, ça valide un petit peu cette approche multimédia, si tu veux, où tu vas avoir le contenu qui va être délivré, que ce soit le texte, l'audio, la vidéo, avec une interface très sympa pour la navigation. Et ça, j'aime beaucoup. J'ai utilisé USA Today, l'application USA Today depuis plusieurs mois. Donc, ça valide en quelque sorte cette approche. Le coup de dire on va créer un contenu spécifique avec un prix spécifique, etc. C'est un peu le souci en fait que je mentionnerai en termes de modèle de business, c'est qu'il y a aujourd'hui pas mal d'alternatives qui sont gratuites, qui est du contenu de grande qualité. Tu vas avoir des agrégateurs de type Flood, Flipboard, etc. Qui sont décents. Personnellement, j'en aime aucun. C'est-à-dire que c'est sympa, mais ça remplace pas en fait une navigation éditoriale, c'est-à-dire quelque chose qui a été programmé du genre l'application CNN ou USA Today, en tout cas pour le moment. Et je sais pas, je suis pas sûr qu'il y ait un tel besoin en fait de contenu spécifique qui va amener les gens à dire ouais absolument je vais payer même si c'est que 99 cents par semaine, tu vois, un dollar c'est pas zéro quoi.
Oui, donc, c'est sûr. Je sais pas, moi je me dis que je l'essayerais bien quand même. En fait, quand on l'évoquait la dernière fois, je me disais j'aimerais bien avoir un truc qui me résume tout ce qui s'est passé une fois par jour. Et tu vois que je télécharge une fois par jour, je lis une fois, je le feuillette une fois et je sais ce qui s'est passé. J'ai pas besoin d'aller revoir toutes les heures parce que c'est mis à jour toutes les heures, d'aller sur CNN ou sur Flipboard ou sur Reader ou machin. Juste un truc une fois par jour et je sais ce qui s'est passé hier. Alors oui, c'est en décalage d'une journée, mais j'ai pas besoin de le faire toutes les minutes, quoi.
Bah tu vois, moi pour cette quand j'ai une journée super super chargée et j'ai absolument pas le temps de suivre ce qui se passe, qu'est-ce que je fais? Je vais sur TechMeme. C'est ce site d'agrégation de news très orienté technique qui construit en fait la liste le contenu au fur et à mesure qu'il devient populaire dans la sphère technique, que ce soit la blogosphère ou que ce soit Twitter aujourd'hui. Donc c'est mon copain Gabri Vera qui a mis ça en place. Et non, ce n'est pas un de mes investissements. J'ai essayé depuis des années d'investir dans ce truc, mais il n'a jamais voulu prendre l'argent, le mien ou quiconque. Et c'est vraiment l'outil qui va agréger toute l'activité autour de la sphère technologique et qui va te donner une vision très claire de quelle était la news la plus importante, la deuxième news la plus importante, etc. etc.
Ah bah, c'est clair que moi, TechMeme, c'est dans mon lecteur de flux RSS. C'est le premier que je regarde tous les matins, quoi. Bon.
Et d'ailleurs, j'ai dit qu'il serait racheté par AOL un jour. Et le jour où j'ai balancé ça sur Twitter, je me suis fait hacher la tronche. Ils ont dit non, si jamais il se fait racheter, c'est de ta faute, ils vont le bousiller, salaud.
Ah bah écoute, AOL est en train de racheter tous les blogs les plus performants du monde. Enfin, en tout cas, dans le domaine. Dans le domaine technophile, mais même pas, puisqu'ils viennent de racheter le Huffington Post.
Et t'as vu comment je t'amène la transition? T'as vu comment
magnifique. Merci, c'était bien joué. Peut-être que nos auditeurs français savent pas ce qu'est le Huffington Post. Je pourrais résumer, mais Jeff, peut-être que tu peux nous le dire, toi qui connais bien ces publications américaines.
Oui, le Huffington Post, en fait, c'était lancé il y a maintenant plus de 5 ans par Arianna Huffington, qui est une grosse personnalité des médias et de la politique. aux États-Unis. Et donc, sa volonté, ça a été depuis le tout début de développer autour de sa marque personnelle, Huffington, un contenu de très très grande qualité avec des intervenants qui comptent des anciens présidents, des prix Nobel, des professeurs, des machins, tout ça. Donc vraiment l'opposé complet des content farms, donc des choses qui sont intéressantes, engageantes, avec une très belle plateforme en fait technique, et derrière d'avoir un modèle de business essentiellement basé sur la pub, mais c'est de la pub de très haut niveau. Et donc, ils se sont lancés. On s'est moqué d'eux au début, puisque bon, quand elle a dit tiens, je vais lancer un blog, ça s'appelle le Huffington Post ou HuffPo, ce qui est son surnom, tout le monde s'est un peu marré. Mais finalement, elle est devenue une actrice extrêmement crédible des médias. Elle a fait une très très forte couverture de la campagne américaine, enfin des campagnes américaines. Elle a fait deux. La toute dernière, en fait, on considère qu'elle a eu un rôle prédominant en fait dans l'acceptance en fait d'Obama en tant que président, puisque bon, c'est quand même la première fois que les États-Unis ont un président de couleur. Et donc aujourd'hui, ce rachat par AOL pour 315 millions de dollars représente un gros jackpot pour elle et pour ses investisseurs, et en gros une validation de la stratégie d'AOL qui est le contenu. Comme on a déjà parlé sur le rendez-vous tech, en gros, on a Google qui fait le search, on a Facebook qui fait le social, il ne reste plus que quoi ? Il ne reste plus que le contenu, et c'est ce qu'AOL est en train de poursuivre.
Est-ce qu'ils vont y arriver ? On ne sait pas, mais en tout cas, ils font tout pour, quoi.
Ils font tout pour, et ils rachètent, si tu veux, qui rachète TechCrunch, qui rachète le HuffPo, qui rachète du contenu de qualité qui ramène de l'argent. Bon, juste pour ramener les choses en termes de multiples, le HuffPo devait faire à peu près 65 millions de dollars de revenus cette année, donc c'est pas un multiple complètement délirant, quoi. Du 5x, 5 fois les revenus ou 4,5 fois les revenus par rapport à un contenu de ce type, sachant que on voit clairement que la pub est en train de redécoller et il y a de plus en plus en fait d'intérêt pour les annonceurs d'aller sur ce type de médias. C'est pas débile du tout, du tout, du tout. Je pense que c'est une acquisition qui a tout à fait du sens. Il y a eu des choses qui ont été faites par OL récemment, des plus petites acquisitions entre 20 et 30 millions de dollars, tu te dis mais à quoi ils pensaient ? En gros, c'est pour ramener des talents sur leur plateforme. Mais ça, c'est quelque chose qui a tout à fait du sens. Est-ce que derrière, AOL va être capable en fait de pousser ce contenu au travers de leur audience propre et de générer un gros revenu ? Parce que bon, faut pas oublier une chose, hein, c'est que le gros du revenu d'AOL aujourd'hui, c'est encore des gens qui utilisent leur service, le dial-up AOL et l'adresse email AOL. Ouais. Quoi. Donc c'est franchement un revenu qui est en pour lequel ils ont du souci. Donc je pense que c'est une acquisition stratégique qui fait tout à fait du sens. Ils se recentrent en fait sur le marché de la femme. Puisqu'ils ont vendu là quelques-unes de leurs propriétés qui étaient plus orientées vers les mecs, genre AOL Sport a été revendu récemment. Donc on va voir. Tim Armstrong, c'est un mec très intelligent. Il a essayé de faire rentrer une équipe qui est vraiment une équipe assez balèze. On verra bien.
Mais tu crois qu'ils ont une chance de pouvoir y arriver ? Parce que faire le pari de... Enfin, je sais que Huffington Post, c'est hyper reconnu, hyper, ça marche super bien. Entre parenthèses, le site est l'un des sites les plus moches que j'ai vus de ma vie. Hein. C'est horriblement laid, leur layout. Mais bon.
Au moins, tu vas pour le contenu, parce que c'est pas la qualité du site qui amène. Hein.
Ah, ça, c'est sûr. Mais enfin bon, donc ils ont Engadget et tous les weblogs Inc. qu'ils avaient rachetés à Calacanis, machin. Ils ont TechCrunch qu'ils ont acheté récemment. Ils ont le Huffington Post maintenant. Ok, c'est très bien, mais est-ce que c'est suffisant pour construire ? Alors, on pense, certains disent que c'est Arianna Huffington qui va maintenant reprendre la ligne éditoriale de AOL et appliquer ce type de formule à d'autres blogs et machin. Mais est-ce que c'est... Enfin, en gros, ma question, c'est est-ce qu'il est crédible de se dire on va devenir les princes du contenu sur Internet, alors que Internet est tellement vaste que... Tu vois, c'est comme je dire, moi, je vais devenir le roi de l'océan, quoi. Il y en a beaucoup des océans sur Terre, donc.
Ouais, mais je pense que si tu réfléchis, en fait, la réponse en courte, c'est je sais pas.
Ouais.
Je pense qu'effectivement, c'est plein, plein, c'est extrêmement compliqué, c'est très difficile de canaliser en fait ton audience vers un contenu propriétaire. Leur pari, c'est de développer une force de vente de publicité qui va être multifacette en fonction des différentes démos psycho, etc., démographiques, psychographiques qui vont être sur leur site, de manière à ce qu'en fonction de, tu vois, le gros truc, c'est de dire, bah voilà, j'ai des bouts de mon contenu qui est extrêmement qui a beaucoup de trafic, et j'ai des bouts de mon contenu qui est extrêmement monétisé.
Ouais.
Et donc je vais bouger les gens qui viennent sur la partie très populaire, genre Justin Bieber, pour l'amener sur quelque chose qui est peut-être plus orienté shopping, etc., etc., mais où tu vas pouvoir avoir des CPI, enfin des monétisations beaucoup plus importantes. Et
Effectivement, Justin Bieber, c'est pas sur Think.Post qu'ils vont l'envoyer. Ça, c'est
non.
clair.
Mais bon. On devrait avoir un drinking game en même temps que c'est celui qui mentionne Justin Bieber, paf, il prend un shot. Et donc, je pense que c'est vraiment compliqué. D'un autre côté, je veux dire, c'est un peu la seule porte qui reste ouverte aujourd'hui sur Internet,
Ouais.
puisque justement le contenu, c'est quand même extrêmement vaste. Et il faut savoir aussi que le contenu qui joue bien, qui s'intègre bien avec Facebook, avec Twitter, etc., c'est quelque chose qui marche bien. Ce sont des boucles virales de distribution qui vont fonctionner. Je pense qu'il manque encore un certain nombre de pièces à l'arsenal d'AOL. Et c'est pour ça que, pour moi, ils vont continuer à faire des acquisitions
Ouais, je pense
de
aussi. Ouais.
façon assez active. Et on verra. Je veux dire, c'est pas idiot. Je pense que ce qui se dit ici, c'est en gros la stratégie que Yahoo aurait dû
Ouais,
développer, aurait
exactement.
dû embarquer il y a 2, 3 ans. Bon, avec Bart, c'est même pas un rêve. Et donc, le fait que Tim Armstrong et Segus s'y mettent, ça a du sens. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est autant AOL, tu disais en tant qu'entrepreneur, t'as vendu à AOL, tout le monde se foutait de ta gueule. Là, aujourd'hui, c'est Yahoo, quoi. Yahoo te fait
Ouais.
une offre, et le mec, il part en courant et dit non, non, plutôt mourir, quoi.
Ouais, c'est
Et
sûr que
c'est ça qui est.
AOL, pour ceux qui s'en souviennent pas, c'est American Online, c'est des gens qui vendaient de l'accès en modem dial-up, enfin en modem sur réseau RTC, à un réseau complètement fermé. Enfin, AOL, c'est l'ancêtre, c'est le dinosaure qui veut pas mourir. Et effectivement, là, ils prouvent qu'ils ont encore du dynamisme et qu'ils sont pas morts et qu'ils sont encore en train de se débattre dans le lac et qui risque de ils ont encore une carte à jouer quoi donc c'est clairement quelque chose d'assez impressionnant. Bah écoutez, oui, tu voulais dire quelque chose?
Non, et je voulais dire qu'ils ont aussi une approche très très dynamique, c'est-à-dire que ils se sont développés dans un. Ils ont bougé de leur espèce de vieux building à Mountain View dans un building tout neuf à Palo Alto. Ils travaillent avec des startups, ils font pas mal d'acquisitions, ils ont rajeuni énormément l'équipe. Moi, j'ai maintenant plein plein de copains qui bossent chez AOL, et donc tu as tendance de façon beaucoup plus naturel à regarder ce que fait AOL et les écouter. T'as un des gros exécutifs maintenant, c'est Brad Garlinghouse, qui est un ancien de chez Yahoo, qui, si tu te rappelles, avait écrit donc c'était comment s'appelait, c'était pas le Peanut Butter Manifesto. Donc c'est lui qui avait fait cet appel à une redéfinition de Yahoo il y a maintenant 3 ans. Et qui est parti, qui a été embauché par Tim Armstrong. Et c'est un mec bien, c'est un mec sympa, c'est un mec cool, c'est un mec fun. Et je pense que c'est trop tôt pour enterrer AOL. C'est un chemin extrêmement compliqué qu'ils ont pris,
Ouais.
mais c'est pas. C'est ça, si tu
C'est pas
veux,
impossible à réaliser.
c'est risqué, c'est difficile, mais c'est pas impossible.
Ouais, effectivement. Je réponds à Martial sur la chatroom qui me demande quel est le nom du blog dont je parlais, l'agréateur dont parlait Jeff. C'est Tech Meme. C'est pas Tech M-I-N, c'est Meme M-E-M-E. Vous savez, genre la mode qui est lancée sur Internet. Tech Meme. M-E-M-E.
TECHMEME.com.
Voilà. Et c'est effectivement un très bon site pour se tenir au courant de l'activité quotidienne dans le, la tech, la, enfin, sur la sphère technophile, comme j'aime à l'appeler. Vous savez qui d'autre j'aime à appeler ? C'est notre sponsor qui est de retour. Vous savez que Numéricable nous a sponsorisé pendant quelques temps. Eh ben, ils recommencent, ils se sont, ils en redemandent et on en est extrêmement reconnaissant. Ils reviennent donc sponsoriser le Rendez-vous Tech et on vous fait passer leur message qui est, vous savez ce qui est important pour le choix d'un FAI, c'est le choix d'un réseau. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des histoires de « ouais, on va vous dire que c'est super rapide, on va vous dire qu'il va y avoir tel et tel et tel machin en plus qu'ailleurs ». Mais en fait, ce qui est important derrière, c'est le réseau qu'ils utilisent et qu'ils déploient. Et Numéricable est en train de moderniser largement son réseau en adoptant la norme DOCSIS 3, c'est-à-dire qu'ils ils veulent faire face aux augmentations de charges sur leur réseau qui sont constantes évidemment comme partout ailleurs, et avec le succès de, du streaming vidéo entre autres, hein, et chez NoWatch on n'y est pas totalement étranger, et ben, il est d'autant plus urgent d'avoir des normes qui soutiennent des débits élevés. Et la norme DOCSIS 3 qu'ils sont en train de mettre en place, c'est une garantie du très haut débit, c'est-à-dire que s'ils vous assurent 100 mégas, par exemple, si vous êtes fibré, eh ben vous êtes garanti d'avoir des tuyaux qui vous assurent la taille de 100 mégas, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Et à l'avenir, ça pourra monter jusqu'à 250 mégas avec cette norme-là. Ils ont mis la priorité sur les trois villes qui ont le plus de connexion de masse aux périodes aux périodes de connexion, enfin aux périodes, aux heures de grande activité sur Internet. Donc les trois villes en question, c'est Paris, Lille et Marseille. Mais dans l'année 2011 vont venir un ensemble de villes sur toute la France. Et je vais vous les citer rapidement. Premier trimestre, il va y avoir Metz, Grenoble, Lyon, Strasbourg, Brest, Joinville, Nantes, Asnières, Le Havre, Montpellier et Nancy. Deuxième trimestre, faites attention, si vous entendez votre ville, vous devez vous lever dans le métro et dire « Ouais, ma ville est suivie par Numéricable ». Toulon, Toulouse, Dunkerque, Reims, Suresnes, Tours, Valence, Versailles, Avignon, Bordeaux, ici, Perpignan, Rennes. Et au troisième trimestre, Saint-Étienne, Angoulême, Angers, Bayonne, Belfort, Béthune, Cannes, Clermont-Ferrand, Clé-sous-Bois, Mulhouse, Martigues, Nîmes, Niort et Saint-Germain. Et donc, toutes ces villes auront la norme DOCSIS 3 dont je vous parlais à l'instant, qui sera mise en place courant 2011. Et pour faire votre test d'éligibilité à la fibre, spécifiquement pour savoir si vous avez droit à ce haut débit 100 mégas assuré, vous pouvez aller sur le site nowatch.tv et cliquez sur la bannière Numéricable. Bon, pour être parfaitement honnête, vous pouvez aussi aller sur le site Numéricable directement, mais si vous passez par chez nous, par nowatch.tv, bah, ça nous fait plaisir parce que ça veut dire qu'ils sauront que vous venez de notre part. Et vous cliquez donc sur la bannière et vous pouvez tester votre éligibilité à la fibre. Faites-le régulièrement parce que ça change tout le temps et ils continuent à fibrer un petit peu partout. Donc, vous êtes peut-être fibré aujourd'hui alors que vous ne l'étiez pas hier. On remercie Numéricable et on referme la petite page du sponsor pour passer à la suite des news et pour parler par exemple de ce fameux Facebook Phone qui n'en est pas un mais qui existe vraiment. Alors on a entendu pendant des mois des rumeurs de Facebook qui serait en train de travailler par Numéricable n'est pas en Belgique où ils ne sont pas encore en train de mettre la fibre en Belgique. Oh, je suis sûr que vous avez de la fibre en Belgique, non ? Bon, bref. Donc, Facebook Phone. Le Facebook Phone n'existe pas, mais le téléphone INQ super Facebookifié, lui, existe. C'est une sorte de feature phone. C'est pas vraiment un smartphone, mais c'est un smartphone simplifié. Et effectivement, il existe des smartphones comme ça qui font qui ont des fonctionnalités Facebook super intégrées, super dès le départ, dès que vous allumez votre téléphone. C'est pas surprenant, hein. De toute façon, on s'y attendait. Voilà, c'est bien. Je sais pas si ça sera forcément pour les gens qui nous écoutent, mais peut-être. Est-ce que tu par exemple, je sais que ta fille Jeff aime bien utilise ton iPad par exemple. Est-ce que un truc comme ça l'intéresserait ou déjà non, c'est pas la peine, il faut un smartphone.
Bah oui, je pense que ça fait maintenant plus de 2 ans qu'elle nous tanne pour avoir son iPhone. Donc si on lui dit tiens, un Facebook Phone à la place de ton iPhone, ça va pas aller du tout dans les chaumières, puisqu'elle compte les jours jusqu'à ce qu'elle elle passe les 11 ans, puisqu'on lui a dit qu'elle aurait son iPhone à 11 ans, comme son frère.
Ah oui.
Je pense que le Facebook Phone, donc ça fait maintenant un bout de temps qu'on en parle, ça fait un bout de temps qu'ils travaillent dessus. On va voir un petit peu ce à quoi ils arrivent. Je sais simplement que l'équipe qui bosse dessus, c'est les mecs qui ont développé pas mal de fonctionnalités qui ont amené Facebook aujourd'hui à près de 600 millions d'utilisateurs. Donc j'attendrai de voir ce qu'ils font pour avant de me prononcer, parce que c'est franchement des top bons, quoi.
Bon, en tout cas, ce téléphone INQ là, le téléphone brandé Facebook. Peut-être que pour certaines personnes qui sont fous de Facebook et qui passent toute leur journée dessus, genre le dernier téléphone machin, ils l'achètent et ils disent ah, c'est Facebook intégré, c'est simple et ça marche. Je pense que ça pourrait intéresser les gens, c'est pas pour tout le monde évidemment.
Enfin, faut pas sous-estimer non plus tu vois le monstre qui est devenu l'application Facebook sur l'iPhone et sur Android.
Ah bah bien sûr.
Et tu sais que c'est un Français qui s'en occupe, c'est qui est rigolo. Et donc je pense qu'il y a une partie de la population, s'il y a un pricing agressif de ce téléphone par un deal entre Facebook et les opérateurs, ça pourrait tout à fait avoir un sens.
Complètement. Autre nouvelle qui date un peu maintenant, mais c'est le fait que Orange et SFR renoncent à la TVA. Comme vous le savez, il y avait une augmentation de la TVA qui était prévue pour notamment les abonnements Internet. Et Bouygues avait dit « nous, on ne va pas répercuter l'augmentation de la TVA sur les abonnements ». Peut-être parce que cette augmentation de la TVA, étant donné que ça impliquait une augmentation de la facture mensuelle, permettait aux abonnés de résilier leurs abonnements. C'était le cas sur les abonnements de téléphone mobile, bien sûr. Et les gens donc chez Bouygues, ils ont dit on va pas le faire, donc les résiliations étaient plus autorisées. Et tout à coup, après quelques semaines, les mauvaises langues disent c'est parce qu'ils ont eu énormément de résiliations. Orange et SFR ont annoncé qu'ils faisaient la même chose, simplement en disant « oui, on veut faire les choses pour nos utilisateurs, machin, truc, truc ». Donc ils ont annulé cette augmentation de la TVA, ce qui est quand même très comique. Sauf que certains avaient déjà engagé les procédures pour résilier leur abonnement et s'étaient pris un abonnement ailleurs. Du coup, ils ont quand même souscrit à leur abonnement ailleurs, mais ils n'ont plus le droit de résilier leur abonnement chez les gens chez qui ils résilient leur abonnement. Enfin, bon, c'est pas sûr à 100% non plus, parce qu'au moment où ils l'avaient fait, cette résiliation, c'était valide. Maintenant, si ça ne l'est plus, bref, on sait pas. Mais en tout cas, Orange et SFR se sont quand même bien retournés. WikiLeaks, prix Nobel de la paix, c'est en tout cas une possibilité. L'un des membres du panel, l'un des membres du parlement norvégien a nommé WikiLeaks pour le possible prix Nobel de la paix en 2011. On ne sait pas ce qui va en résulter finalement, parce qu'il y a ensuite les vrais sélectionnés, mais c'est un des nombreux exemples que WikiLeaks a énormément d'influence sur le monde politique et la géopolitique aujourd'hui. Quand même, prix Nobel de la paix. Je sais pas. Il faut provoquer la paix, on va dire, pour être nommé prix Nobel de la paix, ou militer pour la paix. Même si l'action de WikiLeaks peut être considérée comme louable, je sais pas si. Si, peut-être.
C'est un peu poussé quand même, parce que t'as quand même le côté hacker, le côté je distribue de l'information que j'étais pas censé avoir. Je pense que tu peux te mettre d'un côté ou de l'autre de l'argumentation.
Ouais. C'est compliqué comme toujours avec WikiLeaks. Dernière histoire avant de refermer cette émission. Les noms de domaines, alors c'est les top level domain names si je ne m'abuse, les TLDN qui sont en fait les .com, .fr, etc. qui pourraient être ouverts à l'avenir pour inclure tous les domaines qu'on veut. Par exemple, il serait possible d'avoir un domaine qui serait .jeff clavier, je suis super cool .jeff clavier, ou alors j'adore .jeff clavier. Alors pour acheter le domaine .jeffclavier, au même titre que .com. Pour bien que j'explique clairement, c'est pas que vous achetez jeffclavier.com, c'est que vous achetez la possibilité d'avoir un truc .jeffclavier. Hein, j'espère que c'est bien clair. Il faudrait payer beaucoup d'argent, etc. Mais ça serait ouvert à, en théorie, à peu près tout le monde. Et donc, il n'y aurait plus de domaine classique .com, .fr et tout ça, mais n'importe qui pourrait créer entièrement son domaine. Sauf que ça a des conséquences un petit peu inattendues, parce que, oui, je vais quand même donner des exemples sérieux. Les exemples que donne CNET, c'est des trucs genre point .voiture, point .santé, point .film, etc., etc. Et les conséquences un petit peu inattendues, c'est des trucs du genre « Et si quelqu'un achète le domaine point .homosexuel ?» Est-ce que c'est quelqu'un qui va être pour militer pour les droits des homosexuels ou quelqu'un qui va vouloir, on ne sait pas moi, un extrémiste religieux qui va dire l'homosexualité est un... Enfin, ou une organisation religieuse qui va dire l'homosexualité est un... sin. Est un... Un...
Un péché.
Merci, voilà.
J'arrive pas à croire que je te donne un mot français. Yes, yes.
Donc, ça pose ce genre de problème. Ensuite, si quelqu'un achète un domaine qui appartient à quelqu'un d'autre, bon, ça encore, c'est gérable. Mais bref, les États-Unis voudraient avoir un pouvoir de veto sur ce type de nom de domaine. Et si jamais une personne, enfin une organisation veut acheter un nom de domaine, les États-Unis voudraient pouvoir mettre leur veto sur cet achat. Ça pose énormément de questions, c'est excessivement intéressant comme sujet, c'est presque philosophique à ce niveau-là, et ça risque de devenir un sujet de débat récurrent dans les mois et les années à venir, donc je voulais vous en parler juste comme ça aujourd'hui. C'est vrai que, à la limite, pour une question de liberté d'expression, on se dirait « bah non, il faut que tout le monde ait le droit d'acheter les trucs comme on veut », mais du coup, si n'importe qui peut acheter point homosexuel, est-ce que... je ne sais pas pourquoi je reviens à point homosexuel, mais c'est l'exemple qui est donné régulièrement, mais est-ce qu'on a le droit de laisser n'importe qui le prendre ? Est-ce que si quelqu'un veut acheter point nazi, par exemple, pour promouvoir le néo-nazisme, on peut le laisser faire, mais est-ce que si quelqu'un d'autre... Donc, il faudrait bannir point nazi, mais du coup, si quelqu'un veut l'acheter, une association de survivants de la Deuxième Guerre, par exemple, pour dénoncer les horreurs du nazisme. Enfin, bref, il y a énormément de choses intéressantes à dire là-dessus et je pense qu'on en reparlera à l'avenir, très certainement.
Je pense que ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, tout est régulé par cette entité qui s'appelle l'ICANN, qui est une organisation qui n'a rien à voir avec les États-Unis. C'est en gros une non-profit à qui on a confié la gestion, en quelque sorte, de l'infrastructure du web. Donc, c'est eux qui sont responsables pour le DNS, donc le Domain Name Service, et de dire, bon bah voilà, on va créer ces nouvelles TLDs, Top Level Domains. Faut savoir qu'il y a eu, depuis des années, on a eu .mobi, on a vu .aero qui n'est pas sorti, on a vu pas mal de TLDs donc, qui ont été proposés pour que... Et donc il y a eu à un moment la proposition de XXX, je te laisse deviner ce que c'était XXX, et à chaque fois, ça nécessite une infrastructure, c'est des coûts. Récemment, il y a des petits pays en fait qui se font de l'argent en vendant leur TLDs. Il y a une grosse, ce qui est super rigolo d'ailleurs. Il y a plein de services qui aujourd'hui se terminent en .ly. Donc c'est la Libye. Donc la Libye a fait un takeover. Kadhafi a fait un takeover du web. Ouais. Récemment, il y a la Colombie qui a commencé à vendre des domain names en .co. Pourquoi ? Parce qu'il y a un nombre de gens qui tapent patrickbeja.co ou patrickbeja.cm plutôt que patrickbeja.com, et donc il y a un énorme trafic par erreur qui arrive sur ces noms de domaine. Mm-hmm. Donc c'est comme ça que tu peux, il y a un gros commerce en fait qui s'est mis en place, et donc le fait d'ouvrir complètement le DNS, un, ça foutra un merdier sans nom, parce que bon, c'est un système assez assez antidiluvien en termes de structure où tout est hiérarchisé. Mais bon, c'est antidiluvien, mais ça marche quand même parce que bon, c'est quand même quelque chose qui a dû croître depuis 20 ans de quelques machines à quelques milliards de devices maintenant qui ont une RSIP et qui sont uniquement adressables. Et finalement, ça marche pas si mal que ça. Et donc, ouvrir...
Est-ce qu'on en a vraiment besoin de cette ouverture ?
Non, je pense pas. Parce qu'en fait, ce que j'allais dire, c'est qu'à chaque niveau, tu vas avoir une entité de tutelle, en quelque sorte, qui va contrôler que les droits de la propriété intellectuelle est protégée. C'est-à-dire que si je vais créer un Google point quelque chose, je vais me prendre Google dans la tronche et Google va dire « ça, c'est ma marque et donc je le récupère ». Et c'est logique. Et donc, le fait d'ouvrir complètement à tout et n'importe quoi… Créerait plus de problèmes qu'autre chose.
Ouais, je pense aussi. Et l'un des problèmes que ça pourrait créer, Laurent Lutin sur la chatroom dit, on pourrait avoir un truc du genre, par exemple, beja.kainborg, ça serait horrible, ça. Impossible. Faut pas laisser.
Ah, c'est pas possible, ça.
Faut pas laisser
ça. On peut pas, ça. Ouais. On peut pas créer cette legacy à nos enfants, ça, c'est pas possible.
Pensez aux enfants! Bon, écoutez, on va penser aux enfants et se dire qu'il est donc temps de terminer cette émission. Mais avant de totalement terminer l'émission, il y a un truc qu'on n'a pas fait depuis des mois, peut-être même des années, ça fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, c'est la statosphère de Guillaume. Et ce coup-ci, je ne vais pas l'oublier. Je ne vais tellement pas l'oublier. La semaine dernière, j'ai dit « Ouais, on l'a oublié pendant des semaines, on ne l'a pas fait, il y avait des problèmes, machin. » Mais cette fois-ci, oui, pas de problème, je vais la faire. Et évidemment, je l'ai oublié, j'ai oublié de la remettre au montage après. Et j'étais totalement confus. Eh bien, cette fois-ci, attention, elle arrive tout de suite.
Salut à tous. Le 23 décembre dernier, Peter Thiel, devenu milliardaire après avoir fondé PayPal, annonçait qu'il allait offrir 100 000 dollars à 20 candidats ayant entre 14 et 20 ans et qui seraient capables de le convaincre que leur projet de société tient la route. Peter Thiel espère ainsi encourager les jeunes à se lancer dans l'entrepreneuriat et à ne pas perdre de temps en se lançant dans de longues études supérieures. Sans dénigrer l'importance d'un cursus universitaire, il estime qu'on ne peut pas toujours se permettre d'attendre d'être diplômé. Il faut dire que fort de sa propre expérience d'entrepreneur sans diplôme, le fondateur de PayPal a du flair. Il avait déjà donné 500 000 dollars à Mark Zuckerberg, qui n'avait alors que 19 ans, pour l'inciter à abandonner les bancs d'Harvard et se consacrer exclusivement à Facebook. Thiel s'engage par ailleurs à conseiller les 20 lauréats pendant 2 ans et à leur présenter son riche réseau d'investisseurs. Ainsi peut-être rejoindront-ils la déjà longue liste d'entrepreneurs ayant écourté leurs études pour fonder PayPal, Facebook, Dell, Oracle, Virgin ou même Microsoft. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Merci à Guillaume. Et effectivement, c'était pas totalement absent de bug puisque Jeff n'a pas entendu la Statosphere. N'est-ce pas ? Tu l'as pas entendu normalement, hein ?
C'était passionnant.
C'était, oui, voilà. Parce que, en fait, j'ai mis le truc dans la chatroom l'a entendu, mais en fait, les autres non, mais bon. Bref, donc, elle était bien là. Normalement, elle est là. J'espère que vous n'avez pas entendu du vide pendant une minute, mais ça devrait être bon.
T'étais super expressif, j'ai deviné de quoi ça parle.
Mais en fait, il nous parlait de. Ah, j'ai oublié son nom. Damned, qui veut faire donner de l'argent aux jeunes pour qu'ils quittent leur université plutôt que pour concrétiser leur projet d'entrepreneuriat plutôt que de continuer à perdre du temps à faire leurs études parce que peut-être que leur projet a besoin d'être fait tout de suite plutôt que de continuer ses études. Jeff, toi aussi, est-ce que tu es pour l'abandon des études immédiates ? Est-ce que tu conseilles à tous nos auditeurs de courir créer leur entreprise plutôt que de continuer des études qui ne les mèneront nulle part ? Tout de suite, tous ?
Bah, on m'a posé la question dans une conférence et j'ai répondu en fait, si vous apprenez à moins dormir, vous pouvez faire les études la journée et la start-up le soir et la nuit. Et c'est ce que j'ai fait.
D'accord, donc tu restes consensuel quand même en disant que les deux sont bien.
Non, en fait ça dépend, tu vois, t'as autant d'exemples, t'as beaucoup d'exemples qui plantent, t'as très peu d'exemples qui fonctionnent. Tout le monde mentionne Google, tout le monde mentionne Bill Gates, etc.
Il y en a beaucoup qui ont quitté leurs études pour se planter, quoi.
Voilà. Exactement, donc plutôt que de zoner, autant aller faire une start-up si vous avez la passion, etc. Mais si c'est je veux pas finir mes études parce que je veux faire une start-up, mais je suis pas sûr de mon coup. Je pense que il y a eu une nana comme ça qui est venue me voir il y a 3 ans ou 2 ans qui m'a posé la question. Je lui ai dit, écoute, si j'étais toi, je finirais mes études, ça te permettra de mûrir. Elle était extrêmement jeune aussi à l'époque et elle est maintenant à la tête d'une boîte qui marche très très bien et je pense qu'elle a très bien fait d'attendre 2 ans de plus pour partir sur une idée qui maintenant a vraiment du potentiel et je suis sûr qu'on entendra parler d'elle parce qu'elle est encore très très jeune. Donc c'est une décision personnelle. J'ai eu des discussions qui m'ont amené à dire bah oui effectivement ça a du sens peut-être que tu peux prendre un congé sabbatique parce qu'en fait aux États-Unis tu peux prendre un congé sabbatique et dans notre cas c'est va bosser, va faire tes devoirs et arrête tes conneries.
Je suis totalement d'accord avec toi. Bon bah écoutez, on va rapidement parler iTunes avant de se quitter pour vous dire que vous pouvez aller sur iTunes et nous laisser un petit commentaire avec des notes. On en est où des notes? On a 860 notes, donc si vous pouvez aller nous en mettre, et ben peut-être qu'on se rapprochera des 1000 un jour. Les notes sont généralement très bonnes, merci à vous. On a plutôt des 5 étoiles et notamment un 5 étoiles de Torgard qui nous dit eh bien oui. Dans un de vos derniers podcasts, vous doutiez, il me semble, que les filles écoutent votre podcast. Eh bien, je peux vous l'affirmer, j'en suis une et j'aime beaucoup ce que vous faites. Podcast très intéressant et très enrichissant. Beau travail. Merci à toi, Torgard. Ça fait
très gentil, merci.
Plaisir. Comme elle, vous pouvez aller nous laisser une note et un commentaire sur iTunes, que vous soyez en France ou ailleurs. Ça nous aidera à remonter dans les classements et ça sera extrêmement utile pour nous. Si vous voulez aller voir ce que fait Jeff toute la journée, ou doivent-ils aller, Jeff?
Alors sur Twitter, je suis Jeff, J-E-F-F, et mon site web qui est maintenant à jour.
Oh.
Depuis, pour la première fois depuis 3 ans et demi, j'ai enfin pris la décision de mettre mon portefeuille d'investissement sur le web. Donc c'est à softtechvc.com, softtechvc.com.
Bah, faut dire qu'il se passe des choses, donc...
Il faut se dire qu'il se passe des choses, mais dont on ne peut pas trop parler, parce qu'on ne peut pas vraiment parler de ce que tu fais sur ce genre de choses. Mais c'est vrai que si vous allez sur le site et que vous cliquez sur, pas le fond 1, le fond 2, mais le fond 3, vous verrez des choses.
Bon, et pour ma part, il n'y a pas de fond ni 1, ni 2, ni 3, mais il y a des liens vers plus que 3 réseaux sociaux. C'est sur patrickbeja.com et vous pouvez me retrouver également sur tous les réseaux sociaux, souvent sous le nom de Note Patrick. Et au-delà de ça, je vous invite à aller écouter un nouveau podcast qui vient d'arriver sur nowatch.fm qui s'appelle Saturne, qui est un podcast sur le cinéma que Vivian nous produit depuis le Canada. J'allais dire les États-Unis. C'est un Français exilé au Canada qui fait une émission aussi sympathique que bien gérée. Elle s'appelle donc Saturne, S-A-T-O-O-R-N. Vous trouverez les liens sur le site nowatch.fm et je vous la recommande chaleureusement. Elle est super sympathique. Si vous êtes fan de ciné, vous vous amuserez bien. Bah écoutez, merci beaucoup à tous. On vous fait de grosses bises. On embrasse la chatroom et on se donne rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain Rendez-vous Tech. Merci à tous. Ciao,
merci
ciao.
À tous.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.